France Musique.
Merci beaucoup Lionel Esparza, on se retrouve demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui retourne les a priori. Nouvelle émission dans l'univers des musiques brutes, en compagnie de Franck de Kengo, coprogrammateur du festival Sonic Protest et fervent acteur des pratiques brutes de la musique auprès des personnes en situation de handicap. Nous deviserons ensemble sur ce qui fait une musique brute, tant dans la pratique que dans l'attitude de nombreux artistes qui cherchent à retrouver cette approche instinctive et décomplexée du médium sonore. Alors bien entendu, on retrouve en fin d'émission notre nouvelle séquence, les portraits sonores d'Antoine Berland, qui nous concocte chaque semaine une nouvelle perle en patchwork à partir de paroles et de sons d'anonymes croisés sur son chemin. Et comme chaque mardi, un son qui fait mal aux oreilles. Le cri du patchwork, thème numéro 28, épisode numéro 3, séquence numéro 1.
Eh, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Le grincement. Son que l'on fréquente un peu tous les jours, car omniprésent. Comme une vieille porte qui grince, un parquet qui grince, des dents qui grincent. Un son du quotidien, quoi. Dans sa performance solo intitulée Boys Block, John Zorn a tenté de créer une œuvre digne de Mauricio Kagel. Imaginez l'artiste new-yorkais assis dans son fauteuil devant la télé ou la radio, touchant au fur et à mesure à toutes sortes d'objets qui l'entourent. Alors évidemment, à un moment, ça grince. Peut devenir virtuose du grincement, en tentant de faire grincer toutes sortes d'instruments. Le groupe britannique d'improvisation libre AMM est devenu un expert du grincement, comme dans ce live du 12 juin 1968 intitulé « Like a cloud hanging in the sky », où on ne sait plus très bien ce qui grince, car l'enregistrement lo-fi lui-même grince totalement. on peut tout faire grincer. En tout cas, imaginez une texture grinçante pour tout un orchestre. David Udry, dans The Forgotten City, créé en 2016 par l'ensemble Intercontemporain, donne à voir Buffalo, ville industrielle des États-Unis, aujourd'hui déserte et abandonnée. Il crée alors des formes de grincement presque industrielles par le truchement de flûtes harmoniques, de tam jouées à l'archet et de cordes frottées à qui il demande expressément, sur la partition, « laisser émerger des grincements métalliques » ou « grincements le plus strident possible ». Le tout à grand renfort de ressort dont nous parlions il y a 2 semaines. Le grincement qui met l'ambiance, un simple grincement peut faire basculer toute une ambiance sonore dans l'univers de l'angoisse ou du suspense. En écrivant la musique de « Il était une fois dans l'Ouest », Ennio Morricone avait proposé à Sergio Leone un thème musical pour la séquence d'ouverture où l'on voit 3 cow-boys attendre l'arrivée du train transportant le héros. Leone, ayant refusé la proposition de Morricone, celui-ci prit le parti de ne jouer qu'avec les sons d'ambiance, comme une composition de musique concrète qu'il venait tout juste de découvrir lors d'un concert à Florence. Il organise alors comme une partition rythmique le bourdonnement d'une mouche, l'égouttement d'une fuite d'eau, le son d'un télégraphe, le souffle du vent et, pour couronner le tout, le grincement d'une vieille éolienne comme un ostinato stressant. Séquence d'anthologie.
Thank you.
le chant du grincement. On a vraiment l'impression que cette vieille éolienne, d'Il était une fois dans l'Ouest, chante une litanie régulière et lancinante. Eric Lacasa ne s'y est pas trompé. Pour contrepointer l'espace sonore qu'il enregistre pour son œuvre intitulée « Dans le feuillage du lointain », il actionne ou laisse sonner un objet non identifié qui semble presque parler par ses grincements. On pourrait dire qu'il couine. Le grincement est finalement associé à l'usure, au vieilli, au décati. Prenez un vieil harmonium. L'artiste japonaise John the Dog en a fait la marque de son univers sonore brut et naïf. Dans cette reprise des Sucettes de Gainsbourg, éditée sur le label Tzadik, dans une compilation de covers du Grand Serge, l'ingé son a pris un malin plaisir à enregistrer de près les grincements permanents du soufflet de l'harmonium. Un plaisir de minutie et de fragilité. Grincement intempestif d'un vieux truc. On le trouve tout le temps. Un vieux parquet, ou pire, le matelas à ressort totalement vidé des voisins. Image on ne peut plus explicite que certains rappeurs ont directement utilisé en sample. Du meilleur goût, vous en conviendrez. Voici deux exemples. Trivial dans Some Cut en 2003, avec son sample de Bed Quicking, repris par Well une dizaine d'années plus tard.
Play smart, she take pride. I'm going out, I'm getting hollered at. I'm saying nah, she's no saint, but she don't pose. She don't wear makeup by the bolo. Riding through Lakeshore with the nose up. She don't really date much, but it slows up. She got haters, but we all do. Heard you when the time cold, shawty fall through. Baby, look at they approach, how they court you. All of mind games, never mind, cause they all lows. In the physical sense, I mean that. I ain't tryna kiss up, suck up, feed gas. I ain't like them you sucking your teeth at. Nope. Play big, try humble your mean ass. Look, shawty is actually in prevent, cause the one in front of it's working with deep breath. Yep, bed, floor, couch, more, shower, lower, perm, done. Love, nah, called in the morning, cell number wasn't on, goddamn.
Is it bad that I never made love? No, I never did. Would've shown no how to fuck, I'd be a bad girl. I'll pull it to you. I can't promise that I'll be good to you.
Autre fameux exemple de tout aussi graveleux de l'utilisation du grincement de matelas, dans le film Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro en 1991. Il y a toute une séquence fameuse où toute la métrique des effets sonores et bruitages se cale progressivement sur une scène de coït uniquement suggérée par le prisme du son du matelas. De notre pouvoir à entrer en résonance dans nos actions du quotidien. Faire ses gammes, taper un tapis, construire des boîtes à meux, gonfler un pneu, peindre un plafond et tricoter. Mais en matière de grincement, le maître est Jean Dubuffet et son comparse, le peintre danois Asger Jorn. Vers Noël 1960, celui-ci invite Jean Dubuffet à improviser sur toutes sortes d'instruments de musique qu'aucun ne maîtrise. Jean Dubuffet se dote d'un enregistreur à bande pour immortaliser ses instantanés instinctifs d'une pratique que l'on pourrait qualifier de brute. Non raffinée, non maîtrisée, libre de toute règle. Mais si précurseur de cette musique brute d'aujourd'hui. Des grincements à en perdre haleine.
Thank you.
voyez qu'on y arrive. Hein, c'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Franck de Kengo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes musicien, coprogrammateur du festival Sonic Protest, aux côtés d'Arnaud Rivière, et vous évoluez depuis longtemps dans la sphère des musiques dites brutes, ou les pratiques brutes de la musique, on va en parler. Vous avez organisé plusieurs rencontres, dont une qui s'appelle les rencontres internationales autour des pratiques brutes de la musique, en mars dernier, dans le festival Sonic Protest. Mais tout ça, c'est parti d'une observation de votre ancien métier, puisque vous étiez disquaire, libraire, et pendant plus de 10 ans, 15 ans, vous avez travaillé dans le disque, et vous avez découvert toute une panoplie de disques que vous pouviez peut-être mettre sous un label. Alors, label, c'est un peu compliqué, une sorte d'étiquette, une étiquette d'art brut. Est-ce qu'on pourrait dire étiquette?
Oui, même si les étiquettes, ça pose toujours problème. Mais en même temps, moi, j'avais pas peur de... Il fallait que j'explique aux gens qui venaient acheter des disques ce que c'était. Donc, si c'était du hardcore, si c'était de la noise japonaise ou si c'était de l'art brut. Parce que, voilà, moi, je mettais art brut, en fait, pour faire une accroche... aux gens pour leur dire, voilà, ça pour moi c'est plus proche des créateurs d'art brut que ça reste de expérimental, bizarre, etc. Mais il y a un lien direct. Donc c'est vrai que j'ai assez rapidement fait cette sélection dans la sélection de disques.
Parce que tout ce que vous mettiez sous la dénomination art brut, c'était lié à ces personnes en situation de handicap mental ou psychique qui pratiquent une musique ou un art sonore.
Au départ, oui, c'était lié, c'était le disque. Voilà, quand il y a eu le premier disque d'André Robillard, c'était un événement. Il fallait à tout prix qu'il ait un bac. Alors faire un bac André Robillard dans les disques, c'était... Enfin, ça aurait pu, mais il n'y aurait qu'un disque, alors les gens ne l'auraient pas vu, donc j'avais besoin de mettre d'autres trucs aussi avec. Après, il y avait forcément les expériences du buffet, Hans Cruzy, enfin voilà, après en cherchant, il y avait plein de choses. Il y a un label qui s'appelle toujours In Polisson, qui a fait plusieurs compilations en hommage, en rapport avec l'art brut. Donc voilà, tout ça, ça rentrait en résonance.
Et depuis que vous êtes programmateur Sonic Protest, il y a un groupe qui est assez important dans la démarche de Sonic Protest, puisqu'il est à l'origine aussi de Sonic Protest, c'est Reynolds, que j'ai totalement découvert grâce à vous, un groupe argentin. On va écouter un petit extrait, et puis pour montrer vraiment la pratique brute du musique qu'on n'oserait même pas imaginer, et qui montre vraiment un instinct et une sorte de fragilité toute particulière.
Okay. Hoy quiero noche a Calpulco dices pediría de rosas necesitadas. María sin el mar necesita sin vida. Yo quiero dulce y suave. Lo que quisiera, lo que hiciera, te quisiera dirá.
Le Cuaplo Mesame du groupe Reynolds. Alors là, on entendait Miguel Tomasin ici à la guitare, tout seul, dans une pratique vraiment brute. C'est-à-dire qu'on entend qu'il a la guitare et qu'il ne met pas de doigts vraiment sur le manche, qu'il y a vraiment les cordes à vide, et qu'il chante une chanson qui semblerait presque improvisée. Et
oui, complètement, je pense.
Complètement, ouais, c'est ça. C'est que là, il est vraiment dans un instinct vraiment brut.
Direct, ouais.
Alors, c'est un groupe qui existe depuis 1993, qui est vraiment fondateur de toute cette pratique. Et autour de cette personne, elle s'est constituée un groupe qui a existé pendant quasiment 20 ans et qui est à l'origine du Sonic Protest.
Oui, en fait, pour la petite histoire, moi, j'avais découvert Reynolds dans le milieu des musiques brutistes de label obscur américain. Je suis tombé là-dessus. J'ai trouvé ça phénoménal et j'ai commencé à faire des recherches. Et Paquito Bolino, qui s'occupe des éditions Le Dernier Cri, m'avait demandé demandait de collaborer sur des aspects plus musicaux dans une revue graphique qui s'appelait Hôpital Brut. Et j'ai décidé de faire un article sur eux, donc je suis rentré en contact avec ce groupe et on a eu une correspondance. Et puis du coup, quand ils ont décidé de venir en Europe, ils nous ont contactés. Et à cette époque-là, moi je faisais des choses de mon côté, donc avec ma boutique Bimbo Tower. Il y avait Arnaud Rivière qui était programmateur aux Instants Chavirés, avec qui je faisais des choses en binôme. Et il y avait Benoît Sonnette qui s'occupait d'un label, Textile Records, avec qui je faisais des choses. Il faisait aussi des choses avec Arnaud, mais on n'avait jamais fait tous les trois ensemble. Et quand j'ai donné l'info qu'il y avait les Reynolds qui débarquaient, on s'est dit c'est pas possible, il peut pas y avoir juste un concert, il faut faire un événement. Il faut faire un festival. Au début, ouais, c'était une blague. Hein. Enfin, on a bu quelques bières. On s'est dit, tiens, on va faire un truc sur deux jours. Et puis voilà, ça sera la fin. Et en fait, ça a été le début vraiment historique de Sonic Protest.
Et ça fera 15 ans l'année prochaine que Sonic Protest existe et a grossi au fur et à mesure. Là, ouais, on a, donc vous avez organisé là, dernièrement en mars les rencontres internationales autour des pratiques brutes de la musique. C'est sans doute les premières fois que des acteurs de ces musiques et handicaps, entre la musique et le handicap, se réunissaient pour parler de ces pratiques brutes. Nous avons parlé avec Brut Pop il y a deux semaines. Mmh. Qu'est-ce que vous tirez de ces rencontres-là? C'est que là, tout d'un coup, on peut mettre un nom sur des pratiques nouvelles de la musique en milieu hospitalier et en situation de handicap?
Oui, et ça, l'idée des rencontres, c'était de mettre en lumière un peu des personnages, des initiatives historiques, un peu comme le journal Le Papotin, avec Driss El-Khesri, il y avait l'atelier du non-faire, il y avait des choses comme ça un peu importantes et puis qui étaient en résonance avec tout ce qui se fait en ce moment, qui vient effectivement plus des connexions dont tu parlais, Brut Pop, Label Brut, etc., Stéréotypie, toutes les connexions à l'heure actuelle qui sont dans ces pratiques, chacun dans leur côté. Et puis en fait, on s'est dit, tiens, il faut qu'on fasse aussi des choses en réseau. Et le but de ces rencontres, c'était de faire du réseau, de mettre les gens en lien, de faire découvrir ça à des professionnels, à des artistes, au tout public, et surtout de faire intervenir les jeunes, les artistes, les musiciens, enfin les personnes handicapées qui participent pleinement aux rencontres. Donc on a eu des discussions entre les musiciens des Shoulders, avec les gens de la Stéréotypie, les gens du non-faire qui ont participé. Enfin voilà, c'était d'intégrer tout le monde au même niveau, de faire se rencontrer les gens. Et il y a une bonne dynamique. On espère éditer, faire une édition de tout ce qui a été échangé pendant ces rencontres, faire un deuxième volume l'année prochaine, au mois de mars. Et voilà, ça a été très très bien accueilli et ça a permis aussi d'amener un nouveau public à Sonic Protest. Parce que Sonic Protest essaye vraiment de toucher un public quand même assez large sur des choses qui sont quand même très pointues. Mais là, du coup, on est encore ouvert. Là.
Oui, parce que là, ça touche aussi un public qui n'est pas nécessairement dans la musique, qui est aussi dans le milieu hospitalier, les éducateurs et toutes les personnes qui sont touchées par cette pratique assez instinctive du son et qu'on voit évidemment de plein de pratiques. Et celle d'André Robillard en particulier, qui a été invité cette année au festival Sonic.
Ça, c'est vraiment un grand plaisir. C'est une grande joie, une énergie incroyable qui est venue avec Alexis Forestier, avec qui il a fait plusieurs spectacles, des spectacles assez complets, hein, de théâtre, de musique, poésie, performance, etc. Là, l'idée, c'était de leur proposer vraiment d'être dans un mode de concert. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se permettre de faire un vrai spectacle de théâtre dans une soirée où il y a trois groupes qui jouent, un bar, etc. Donc on voulait qu'ils jouent le jeu de faire des chansons, un concert, quoi. Donc c'était une formule même pour eux nouvelle.
Et ce qu'il faut dire qu'André Robillard est quand même un personnage incontournable de l'art brut, plastique déjà, puisqu'il construit des fusils lui-même avec ses objets qui sont tout à fait incroyables depuis des années. À savoir, c'est un personnage qui, depuis ses 19 ans, a été interné très tôt, mais est resté dans la structure où il est toujours, fleurit les aubrais. Et depuis cette structure, il nous a livré un art brut incroyable avec des expositions dans le monde entier. Et surtout, depuis 2009, il fait vraiment de la scène en tant que musicien.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a redécouvert, grâce au label In Polisson, en partie, et au dernier cri, la aspect musical d'André Robillard. Après, moi, j'avais vu un film il y a des différents films qui existent sur lui où on le voit jouer de la musique, faire des percussions avec des cartouches de fusil, de l'accordéon. Il dégage un truc super en plus en musique. Et c'est vrai que cette partie-là, par exemple, était un peu mise de côté par le milieu de l'art brut, on va dire. On s'intéresse pas forcément au son dans l'art brut, mais c'est en train de changer là.
Oui. Grâce à des initiatives comme la vôtre, Franck de Quengo, donc je vous propose d'écouter André Robillard ici dans une forme radiophonique presque, qui se trouvait sur une compilation sur le label In Polisson, rythmé brut.
Vous voulez pas votre casquette pour le soleil?
Oh si, je vais la mettre.
Hein, je vous garde le ninas.
Oui, pour le soleil.
Thank you.
L'autre fois, j'ai vu un guépard. C'est joli, hein, tacheté, c'est... Et après, il y a les hyènes qui sont venus, donc c'est mauvais, les hyènes. Hein. Les hyènes, c'est machin, ça mange tout, ça. Hein. Mm-hmm. Les machins sauvages, les hyènes. Et ben, le guépard, le guépard, il voulait manger, il avait tout le machin. Le guépard, il s'est sauvé, il y avait les hyènes qui s'amenaient, ben, ils ont amené une bande, mais le guépard, il n'y a plus du camp. C'est les hyènes qui ont mangé la viande. Plus ça, il peut y avoir fait la télé, les machins, les animaux.
Et la batterie,
alors, la batterie, vous m'avez pas joué de batterie.
C'est ça la batterie.
C'est ça?
Oui.
Bah, montrez-moi alors.
Vous allez voir, je vais vous montrer, c'est moi qui ai inventé ce machin là, disons. Oui. Avec les cartouches.
Ah, vous enlevez les lunettes?
Oui, bon, vous allez les enlever. Là.
Ah d'accord.
Tu vois,
alors vous mettez des cartouches sur le doigt.
Ouais, oui, au doigt. Au doigt.
Ah, bah, attends, je vais enlever ma bague, je vais prendre un chat.
Du cartouche au doigt. Oui, c'est moi qui ai inventé ce machin de batterie, hein. Et puis je chante en même temps, hein.
Bon.
Ouais, en même temps.
Bon, alors on écoute, ça y est.
Oh.
Dans une forme d'improvisation sur une batterie de fortune, un personnage incontournable de l'art brut est Frank de Congo. La question, c'est ça, c'est on connaît l'art brut qui a été vraiment identifié par Dubuffet, c'est un mot qu'on a donné, qui est presque une catégorie esthétique, on pourrait presque dire, voire surannée, mais est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui d'une musique brute, vraiment?
Ben, en fait, j'aurais tendance à dire... Déjà, ça fait un peu peur, je pense, l'appellation musique brute. Après... Il ne faudrait pas tomber dans le problème qu'a l'art brut, c'est-à-dire avec toutes les dénominations, l'art hors norme, hors les normes, raw art, etc., où tout le monde se tient un peu dans les pattes. L'idée, ça ne serait pas de créer comme ça des choses. Ça, c'est de l'art brut, ça s'en est pas. Ça, c'est de la musique brute, ça s'en est pas. Après, il y a la pratique. Une pratique, avec Sonic Protest, on parle plus de pratique brute, parce que c'est vraiment une façon, c'est une démarche d'être d'artistes qui n'ont pas le choix que de faire leur propre truc, qui est différent. Avec les moyens du bord, ils inventent des instruments, ils font des choses, c'est vital pour eux. Et après, le résultat, il est brut, mais c'est vrai qu'on... Dans la musique expérimentale, de toute façon, la musique de Pierre Schaeffer, c'est une musique brute.
Alors, il y a une grande discussion là-dessus. Non. J'en ai eu il y a pas longtemps avec Michel Chion là-dessus, qui n'était pas du tout d'accord, mais justement, c'est intéressant. Mais par rapport à ça, comme vous disiez, c'est plutôt une attitude, finalement, d'être brut. On n'est pas obligé d'avoir cette marginalisation, cet isolement, cet enfermement, ou bien ce handicap pour faire de la musique brute. C'est peut-être une attitude de quelqu'un qui va avoir ce côté instinctif, peut-être très naïf aussi, avec le son, prendre comme il est, là où il est.
Je crois quand même que les gens qu'on retrouve dans ces catégories-là sont de toute façon quand même un peu isolés. Comme ils font pas de concessions, ils sont dans une démarche assez radicale, forcément ils suivent pas les modes, ils sont pas dans les... Ils savent pas se vendre, ils savent pas s'éditer, ils ont pas de tourneur, ils ont pas de... Donc ils restent quand même dans une marge. Mmh. Après, ouais, c'est une démarche, mais c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de manière sincère dans les marges. Mmh. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui s'apparentent à la musique brute, mais qui va être fait par des artistes qui savent exactement ce qu'ils font pour faire quelque chose de bizarre, on va dire.
C'est ça. C'est un peu le cas de Harry Méry, que je découvre également, qui est un artiste que vous avez invité au Sonic Protest, c'était cette année.
Oui. Ouais. En fait, c'est la deuxième fois. C'est très très rare, hein, des artistes qui jouent deux fois à Sonic Protest, mais il se trouve qu'il avait joué la première fois le jour de l'élection de Nicolas Sarkozy. C'est comme ça. Et donc, le cadre qu'on lui avait donné, on s'était un peu trompé. On l'avait mis dans une salle d'exposition, on pensait que ça allait marcher comme ça, il y avait une ambiance bizarre. Enfin, il n'a pas eu... On s'en voulait un peu de ne pas lui avoir donné un cadre suffisamment à la hauteur de son génie. Mmh. Et du coup, on s'est permis de le réinviter parce que l'occasion des pratiques brutes, ça permettait justement de le mettre, lui, dans cette programmation-là, parce qu'il est complètement dehors de tout. Sa musique, c'est les Beach Boys joués sur un Casio, avec mélangé avec je sais pas quoi... Bon, c'est un ovni, et du coup, lui, il est, oui, voilà, il est étrange, mais ça se voit même dans sa façon d'être. Ouais. Quoi.
C'est un aspect vestimentaire même. Voilà.
C'est une masse de 2 mètres habillé en marin, en enfant marin, en écolier, je ne sais pas quoi. Et il est comme ça de manière normale. Il a des dents un peu aiguisées, je ne sais pas s'il l'a fait exprès. Mais c'est une œuvre d'art à lui tout seul. Donc il avait complètement sa place dans cette soirée et ça faisait une résonance superbe avec les Shoulders.
Harry Mary, Sharky Super Machine.
Sharky Super Machine in the bodybuilder scene. Putting up makeup every 20 minutes to be seen. Makes a stand and brings on the helping hand. Makes you wanna keep it with the happy end. Cause you gotta pay the teacher, but you slam it if you're the cheater. She lets Sharky Super Machine is the camp's unburning queen. Twice a week says such like every day's Halloween. Rational, it's the true professional. Typical for the United Nationals. Cause you gotta pay the teacher, but you slam it if you're the cheater. She lives Sharky Machine. Uncensored, many goals on many sports, driving all the cars, sometimes gets quickly bored. Cause you gotta pay the teacher, but you slam it if you're the cheater. She left lonely is only. I'm never gonna be with another tree, but I can't be drunk. I'd rather be a monk. You gotta pay the teacher, but you slam it if you're the cheater. She lets Sharky Super Machine.
Sharky Super Machine de Harry Mary. Alors là, il est vraiment tout seul, hein, Frank Dacango. Il est vraiment avec ses machines. Et puis, on a ici un personnage qui est hors norme. C'est-à-dire. Ce qui fascine quand même dans une pratique comme celle-ci, c'est ce rapport décomplexé à la musique, ce rapport au son qui est décomplexé pour tous les musiciens qui ont fait leur gamme, qui ont travaillé comme des damnés leur instrument, et qui, parce que Harry Mary est programmé partout dans le monde, il tourne, il fascine vraiment. Est-ce que on pourrait dire que les pratiques brutes de la musique redistribuent un peu les cartes de ce qui fait musique, de ce qui fait la pratique de la musique?
Oui, c'est sûr. Après, lui, il est particulièrement pas doué, mais enfin, il a une virtuosité quand même. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est n'importe quoi quand on écoute. Ça peut être ça, d'ailleurs. Enfin, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui écoute ses musiques, va dire que c'est bon, c'est quoi. Enfin, mais si on écoute vraiment, si on commence à avoir l'oreille du musicien qui écoute vraiment le truc, c'est très très bizarre. Ces constructions rythmiques, et puis il est pas du tout à côté de la plaque. Sûr, et tout. Ouais. Donc effectivement, lui, il amène une espèce de virtuosité comme ça dans le. Mais redistribution des cartes.
Parce qu'il y a quand même ce rapport au jugement aussi, parce que souvent quand on écoute de la musique, on dit c'est bien, c'est pas bien. La musique
brute. Ma petite sœur peut faire la même chose.
Voilà, des choses comme ça. Là, on n'est plus du tout dans ce rapport de jugement. Par exemple, quand vous êtes aussi animateur de radio, producteur de radio avec Julien Mancillon, qu'on a reçu ici la semaine dernière, dans cette fameuse radio Tisto qui est diffusée sur Radio Libertaire une fois par mois, avec un groupe de jeunes, les Harry's, avec qui vous communiquez vraiment, vous travaillez sur ce rapport à la musique et au son. La notion de jugement est très présente au sein des publics. Situation de handicap, c'est bien, c'est pas bien, c'est moche, c'est pas moche. Mais par contre, d'entendre leur musique nous permet, nous, de sortir de cette notion de jugement, peut-être aussi, d'être juste dans le faire.
Ça, c'est sûr. Hein. Le projet de Radio Tisto, c'était vraiment de faire de la radio avec des jeunes, avec même certains jeunes qui n'avaient pas ou très peu la parole. Donc ils pouvaient, par le biais de l'émission, enfin du son, je veux dire, de la musique, pouvoir participer à l'émission. Chanter des choses, jouer de la musique. Et du coup, c'est de la radio totale, quoi. C'est de la radio. Dès que c'est on, ça s'arrête plus, quoi.
Oui, c'est
ça
c'est part.
Il y a du son, il se passe plein de choses. On essaye à chaque fois de prévoir les choses, mais maintenant, on sait que on se donne un petit fil, mais il va tellement se passer de trucs qu'on n'a pas prévu que voilà, c'est de l'improvisation totale à la radio. Et les jeunes, qui sont quand même des jeunes. Qu'on ait des problèmes à communiquer les uns avec les autres ou avec l'extérieur, là, du coup, il y a une cohésion, il y a tout un truc qui se fait, qui est assez, assez magique. Et ça nous permet aussi de rencontrer d'autres gens, d'autres artistes, d'autres jeunes.
Parce que vous faites énormément aussi d'activités et d'actions culturelles autour de vos différentes pratiques, que ce soit donc ici avec Radio Tisto, mais aussi avec Sonic Protest. C'était le cas avec Adam Bowman, un artiste britannique hors norme, vraiment, qui fait partie du groupe Morphogenesis, un groupe de musique expérimentale britannique. Et là, on va l'entendre dans un extrait où il joue lui-même avec sa voix, et, parce que sa voix est très importante, mais ça, vous nous en direz un peu plus après. Voici The Unfortunate Demise of Sammy Slug.
Happy as can be, I'm crawling along the ground, feeling so very happy. I see a little pellet, it looks so green and juicy. I sink my teeth right in, I munch away. So, oh my god, I bet you didn't know slugs went to heaven, but they do, 'cause I'm here now.
The Unfortunate Demise of Sammy Slug de Adam Bowman. Alors, pour la petite histoire, Franck de Kengo, c'est que vous avez fait des ateliers pédagogiques avec Adam Bowman lors de Sonic Protest, alors que la situation était complètement incongrue, finalement.
En fait, c'était un artiste qui s'appelle Antoine Mobine, qui était invité à animer un atelier avec les collégiens du collège Aimé Césaire dans le 18e arrondissement de Paris. Un atelier de pratique musicale sur instruments fabriqués, les chambres sonores d'Antoine Mobine. Et l'idée, c'était à un moment donné, dans l'atelier, de pouvoir faire intervenir un artiste extérieur. Donc on a discuté avec Antoine pour savoir qui il avait envie d'inviter. Et il nous a tout de suite parlé d'Adam Bowman, qui est quelqu'un qu'on connaissait avec Arnaud Rivière et avec qui on avait envie de travailler. Il était déjà venu intervenir dans Sonic Protest au tout début. Et on avait envie de refaire des choses aussi avec lui. Et donc, effectivement, Adam Bowman a une pratique de l'instrument acoustique. Il joue avec une quantité incroyable d'objets, de choses. Il va faire de l'archet sur des bouchons, des trucs, des machins. Et il a sa pratique vocale. Et c'était assez osé parce que il se trouve que Adam Bowman est bègue et qu'il est anglais, qu'il est un peu particulier, qu'il a pas d'adresse. Enfin, il a une adresse email, mais c'est très compliqué de correspondre avec lui. Et en fait, de le mettre comme ça en situation d'artiste invité dans ce cadre-là, on avait été reçu à l'époque par la Gaieté Lyrique pour faire deux jours d'atelier pour préparer un concert. Et c'était assez improbable, avec des jeunes qui parlaient pas forcément anglais. Enfin, il y avait un truc, mais il s'est vraiment passé quelque chose de magique. Ça a donné lieu à une performance à la Générale du Nord-Est, et c'était très beau.
Ouais, parce qu'il suffit en fait d'avoir cette rencontre humaine aussi autour du son qui est hyper importante.
Oui.
Et que là, tout d'un coup, les barrières esthétiques, elles explosent complètement.
Oui, puis c'est des jeunes en fait qui avaient bien entendu jamais rencontré de musique expérimentale. Et du coup, là, ils ont fabriqué avec Anton leurs propres instruments de musique. Ils les ont décorés, etc. Et là, ils pouvaient jouer de la musique. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il y avait une petite direction, on va dire. Mais ils étaient quand même assez libres de faire ce qu'ils voulaient. Et puis de rencontrer comme ça cette énergie humaine qui était encore plus farfelue que les autres. Il y a une magie qui s'est opérée tout de suite.
Ce qui est assez impressionnant, Franck de Kengo, c'est qu'avec tous les exemples que vous nous avez apportés, c'est qu'on voit qu'à la fois il y a une forme de virtuosité auprès du son pour certains artistes, d'autres où c'est vraiment très instinctif sans se poser de questions, mais il y a quand même toujours cette manière de désapprendre un petit peu la pratique que l'on peut avoir traditionnelle d'un instrument. Est-ce qu'on pourrait dire que dans l'art brut, enfin plutôt la pratique brute de la musique, on a toujours ce rapport à trouver autre chose que ce que l'instrument peut nous proposer?
Mais en fait, je crois que l'exemple, le meilleur exemple, c'est un des groupes qui a joué aux premières rencontres de pratique brute de la musique cette année, au Centre Barbara. C'est le Nihilist Spasm Band. Parce que eux, en fait, c'est des Canadiens qui font de la musique depuis les années 60 et qui ne savent pas jouer de musique et qui revendiquent ça haut et fort. Et on peut se dire que c'est impossible de ne pas savoir jouer de musique parce qu'ils répètent, ils jouent ensemble tous les lundis soirs quand même, depuis les années 60.
Donc ils ont une pratique vraiment, quoi.
Ouais. Ils inventent leurs instruments, mais ils sont en concert, ils font la même chose que sur leur premier disque, qui est sorti en 68, je crois. Et c'est un ovni sonore. Et effectivement, je pense qu'ils s'empêchent d'apprendre pour pouvoir avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent. Mmh. Parce que s'ils commencent à apprendre, ils vont aller vers des trucs, ils vont pas s'autoriser de faire ce que font justement des jeunes autistes. Les jeunes autistes vont pas se poser la question de savoir ça se fait ou pas. Est-ce que je peux chanter du R&B sur un truc de cordes grattées? Bah oui, il y a pas de problème. Je peux le faire. Ça. Je le fais.
Et là, on retrouve finalement un peu de l'esthétique punk aussi, c'est-à-dire que pas nécessairement avoir besoin de virtuosité, c'est le faire à un endroit où le son va se faire, et qu'on retrouve vraiment beaucoup dans ces pratiques brutes. C'est le cas, par exemple, d'un artiste comme Alvaro, qui est un artiste que vous avez invité, avec qui vous avez travaillé, parce que vous avez produit un disque avec lui, Frank de Kengo, et avec qui vous avez imaginé des choses. Alors Alvaro vient vraiment de la sphère punk au départ.
Ben Alvaro, en fait, il jouait dans un groupe qui s'appelait les 101 Years avec Joe Strummer avant les Clash. Donc il est à Londres juste avant l'explosion du punk. Et au moment où ses copains vont faire la révolution du rock, enfin une des révolutions du rock, lui fait son truc à lui et fait un disque complètement obscur qui va passer complètement inaperçu en pleine explosion punk, post-punk, etc. qui s'appelle Drinking My Own Sperm. Et qui va passer inaperçu mais qui va en même temps être tout de suite remarqué par des gens comme Stephen Stapleton et son projet Nurse with Wound. Ouais. Donc il existe quand même dans un mythe, mais il disparaît complètement des radars. Et en fait, voilà, toujours par le biais de ma boutique, je me suis aperçu qu'il continuait à faire des disques. Je l'ai contacté, on a fait un disque ensemble. Et puis l'idée, ça a été aussi de lui proposer un concert pour Sonic Protest. Comme il savait, parce que je lui avais un peu expliqué, pour rentrer en contact avec ces personnes, il faut jouer franc jeu. Parler un peu de ce que je faisais moi. Je faisais beaucoup de concerts pour enfants, donc j'avais avec un groupe qui s'appelait Dragibus. Je lui avais envoyé des disques. Et donc, il s'est mis dans la tête que je vivais dans une communauté hippie avec plein d'enfants, je pense. Parce qu'il m'a demandé naturellement, bah, pour un morceau du concert, j'ai besoin d'une chorale d'enfants. Je lui ai dit, bah, ça va être un peu compliqué, mais on va voir ce qu'on peut faire. Et on a joué le jeu. On a contacté un instituteur qui est sur Saint-Denis, qui est en pédagogie Freinet, en pédagogie alternative, qui fait beaucoup de musique aussi, des instruments fabriqués, etc. On lui a dit, est-ce que tes élèves, ça les brancherait de venir pour un morceau? Il a dit oui, et du coup, ils ont joué le jeu. Ils ont appris ce cœur comme ça de ce morceau, The Tongue, et ça s'est fait. Donc le désir d'Alvaro a été réalisé. Alors je pense que dans n'importe quel cadre classique, on lui aurait dit non, mais ça va pas, non.
Oh.
The Tongue d'Alvaro. Alors ici, on entend un drone vocal qui devait être interprété par les enfants pour Sonic Protest, c'est ça, dans le cadre
ouais, de... Ouais, il y avait une chorale d'une quinzaine d'élèves de Saint-Denis.
Et qui approche donc comme ça cette pratique très brute, parce qu'on entend vraiment là le synthé, vraiment un petit synthé de rien, avec ouais. une basse hyper saturée, on sait pas d'où. Ouais. Et là, on est vraiment dans une pratique très simple et puis instinctive qu'on retrouve dans pas mal de groupes aujourd'hui, dont un qui a fait le tour du monde et surtout qui a fait l'Eurovision. Qui, est,
qui aurait dû gagner l'Eurovision.
Qui aurait dû gagner l'Eurovision et qui ne l'a pas fait.
Moi, j'ai voté pour.
Ouais, c'est vrai. One point for Frank de Kengo. Et c'était Pertti Kurikanimi Päivät. Alors, c'est un nom finlandais, on dit en général
PKN,
voilà, un groupe ouais. qui réunit des personnes en situation de handicap et uniquement des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'ils sont quatre ouais. sur scène à être autistes et trisomiques.
Deux
et...
adultes autistes, ouais, deux adultes trisomiques.
Voilà, et qui ensemble ont réussi à faire vraiment un rock qui tient la route. C'est un peu bête de dire ça après avoir dit tout ce qu'on a dit, mais dire qu'ils sonnent vraiment comme un groupe très uni en tout cas.
Ah, c'est l'essence même du punk rock, il y a même c'est une tendance même un peu hardcore du punk, mais c'est la base. Ils ont vraiment réussi la base de la chose complètement directe. Et ils ont beaucoup d'humour puisqu'ils reprennent Mongoloid
voilà.
de Divo.
Alors c'est intéressant parce qu'il y a deux semaines, on avait passé un extrait d'une reprise de Mongoloid de Divo également par un artiste assez obscur aussi. Et puis là, on reprend ça. Et là, ce sont des personnes trisomiques qui chantent Mongoloid, qui met donc une sorte de mise en abîme sur ce texte qui est assez incroyable, qui dit « je suis mongolien et je veux faire comme vous, je veux faire comme vous », en gros, quoi. Mm. Alors que c'est assez troublant.
Et PKN est présent dans tous les mail orders de musique punk du monde. Enfin, genre, ils sont partout. Ils sont reconnus comme un groupe punk hardcore au même titre que n'importe quel autre petit groupe.
Alors malheureusement, ça s'est arrêté en 2016 lors des 60 ans du guitariste principal qui a décidé de prendre sa retraite.
Voilà.
Ça arrive.
Oh bah il a bien donné quand même.
Ouais, c'est ça. Voilà, il a bien tourné.
Voici. Non mon... mais il influence beaucoup de. Personne. Ouais. Il va se passer des choses dans les années là qui viennent. Il y a des projets, il y a des gens qui ont envie de partir en cette direction-là.
Oui,
de toute façon. Etc.
Mmh. Ouais, donc ça a déclenché quelque chose en tout cas, ça c'est sûr.
Ouais, oui. Ouais.
Donc voici Mongoloid par Pertti Kurikanimi Päivät, PKN. Mongoloid, une version du morceau de Divo par le Pertti Kurikanimi Päivät, PKN, un groupe uniquement constitué d'autistes trisomiques que nous quittons. Merci beaucoup Franck de Kengo d'avoir accepté l'invitation pour nous parler un peu de tout ce que vous faites dans Sonic Protest et autres. Merci.
Merci à vous.
Et on retrouve évidemment Sonic Protest sur internet sonicprotest.com. Si vous voulez suivre un petit peu l'actualité des Harris avec qui vous faites la radio Autisto, évidemment il y a le Facebook et puis rendez-vous le 27 septembre prochain sur Radio Libertaire entre 14h et 16h pour une émission en direct de l'hôpital de jour de Antony avec ce groupe de jeunes avec qui vous travaillez maintenant depuis plusieurs années. On attend désespérément l'édition à venir des actes de colloque, des rencontres internationales autour des pratiques brutes de la musique. C'est pompeux un peu de le dire comme ça, mais c'est important parce que ça marque vraiment l'existence de ces journées-là qui continueront l'année prochaine. Au revoir Franck et bonjour Antoine Berland.
Portrait sonore, Antoine Berland.
Faites un son aigu.
Que pensez-vous de la musique? Musique, c'est ma vie.
Bonjour.
Sonore numéro 47. J'adore la batterie. Ouagadougou, février 2016.
Je joue, moi j'aime jouer la musique, mais j'adore la batterie comme instrument.
1, 2, 3, 4, pas que
pour autant. J'adore.
Travailler pas que
seulement que j'ai.
J'ai pas
la chance de cahier. Un endroit où faire les répétitions. Sinon, c'est mon instrument préféré.
Bonjour.
Oh!
Pam, 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 pam.
Bonjour.
Oh.
Porom.
Bonjour. Poum, poum.
Tararara. Oh, 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 oh. Do, ré, mi, fa, sol, la, si,
Hélène.
Je m'appelle Hélène.
Si, la,
je suis une fille.
Fa, mi, ré,
lila, lila, la, la, lila, lila, la, la, lila, 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 la, lila, lila, la, la. Moi je t'aime. Lila, 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 la, lila, lila, lila. Lila 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 lila.
La fin de notre troisième épisode du Cri du Patchwork sur le brut. Merci à Perrine Mingui aux commandes et réalisations du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Eric Boisset. Merci à Flora Sternadel, toujours à l'affût du moindre son. La semaine prochaine, on clôturera notre thématique brute par une interview exclusive de Keiji Haino, géant du rock le plus brut et de la Japanoise, de passage à la capitale à l'occasion d'un concert donné au festival Villette Sonic le 25 mai dernier, en compagnie de Merzbow et Balash Pandi. Une rencontre haute en couleurs et en pensée pour parler d'une approche à la fois simple et bruyante du son que Keiji Haino triture depuis maintenant 40 ans. À vos esgourdes! D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, francemusique.fr. Vous pourrez podcaster cette émission ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants.
Si je fais 1, Togaram, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, parap, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein. Bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est minuit, je passe la main à Anne Montaron pour écouter Création mondiale.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.